BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Bienvenue à toutes et tous, tout pour investir, nouvelle édition. Merci de nous rejoindre sur BFM Business en direct à la radio, à la télé, sur le web. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission et toutes les chroniques sur le replay, sur le podcast. Et encore beaucoup d'actualités à commenter ce matin, à décortiquer pour prendre soin de vos finances personnelles. Déjà, la question à 1000 milliards de dollars, si on peut dire. Où va-t-on sur les marchés ? On a quand même bien l'impression que les indices actions ont tendance à s'auto-immuniser contre le pétrole cher. Ça, c'est nouveau. Alors, comment ? Pourquoi ? Avec quelle dynamique ? Entre Iran, crainte de stagflation, indicateur qui s'affole, vraiment beaucoup de choses à regarder. On va en parler dans un instant avec Alexandre Baradez d'IGE et Omar Dibaud de Fineco. Arbitrage de court terme pour un CAC 40 qui renoue avec les 8000 points malgré un pétrole à 103 dollars. Trois hausses consécutives pour l'instant pour l'indice parisien qui tente la semaine parfaite. Mais est-ce que tout ça est bien solide ? On va voir tout ça tout à l'heure dans le plan de trading, dans les arbitrages avec Valentin Nico de Bourse Directe. Votre patrimoine au quotidien, alors déjà organiser, préparer une donation de son vivant. Tous les conseils pratiques dans la boîte à outils tout à l'heure avec Thibaut Delahaye de Delahaye Capital. Vous allez voir, c'est pas si évident, mais on est là pour vous fournir tous les bons outils, vous aider à préparer ça le plus sereinement possible. Focus sur l'immobilier, tiens, aussi avec les SCPI. On l'a vu ces derniers mois, le marché repart un petit peu après des années de disette. Mais de quelle manière ? Comment en profiter sans se mettre pour autant dans une position difficile ? Là aussi, les conseils concrets et pratiques de David Sexig de Remake dans le placement à suivre. Enfin, on va terminer l'émission en parlant bagnole. On va préparer à l'avance alors une très jolie vente chez Arcurial qui aura lieu début juillet. Mais attention, d'ores et déjà, il y aura de très très belles autos à l'affiche, notamment les Youngtimers, ces voitures de collection relativement récentes, en gros celles qui nous faisaient rêver quand on était petit. Un vrai marché en pleine ébullition depuis quelques années. Alors comment se porte-t-il en ce début d'année ? Quelles sont les voitures qui font le plus envie dans ce domaine ? Rendez-vous en fin d'émission dans le coffre-fort avec Pierre Novikov d'Arcurial. Vos questions, vous pouvez nous les poser par mail. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr. Nous les envoyez par SMS au 732-16, mot-clé business et votre question. Et puis Twitter et LinkedIn, évidemment, pour nous joindre en direct. Et puis on essaie de répondre en cours d'émission à toutes vos questions. Le reste de l'actualité du jour. Alors, c'était l'événement du jour à Bruxelles, le lancement du 28e régime, le nouveau modèle juridique pour simplifier la création d'entreprises en Europe, un vrai statut européen unifié dès l'acte de naissance de la société, l'Europe qui s'invite véritablement au cœur du business ce matin avec parallèlement cette opération séduction de Chris Bryant, le ministre du Commerce britannique, pour éviter à tout prix que le Royaume-Uni ne soit laissé totalement à l'écart. Alors que l'Europe vient de présenter sa loi d'accélération industrielle pour protéger son industrie, notamment automobile, face à la Chine, le ministre britannique est venu multiplier les rencontres pour défendre un « made in Europe » continental. Sur les questions commerciales, le Parlement européen va reprendre ses travaux sur l'accord passé avec Washington après plus d'un mois de suspension. Suite à la décision de la Cour suprême aux États-Unis, le texte va donc revenir en commission dès ce matin, avant, en cas de feu vert, un vote en plénière plus tard cette année. L'accord avec le Mercosur, ça continue d'avancer côté sud-américain. Le Paraguay, cette nuit, tous les pays du bloc ont maintenant ratifié le traité au sein de leurs parlements respectifs. L'actualité des entreprises aussi n'a pas perdu de vue des commandes records pour Hexcel. Dans le secteur de la défense, elles ont grimpé de 85% en 2025 pour un tas de 844 millions d'euros, notamment grâce à une grosse dynamique dans la robotique maritime et les systèmes de navigation. Et dans le secteur, c'est le français Parrot qui a reçu une commande de l'OTAN, là pour des micro-drones de surveillance, qui seront notamment destinés à la Finlande. Le montant et le nombre d'unités ne sont pas publics. Allez, tout de suite, votre tableau de bord.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Et de 3 pour le CAC 40. Qui, alors cette fois, vraiment libère du potentiel. On est en hausse d'1% là en ce moment et on renoue avec les 8000 points, 8053 à l'instant. Performance égale de la tech. Hein, l'Euronext Tech Leaders gagne 1,05. Et si on regarde les autres indices européens, alors on a une très légère avance sur l'Eurostock 50 qui gagne 0,95%, sur le DAX à Francfort qui gagne 0,79%. Mais on est un petit peu en retard. C'est Madrid. Là, c'est étonnant. Ça fait deux hausses consécutives de plus d'1%. Bourse de Madrid qui se porte très bien, mais à regarder du côté du FTSE à Londres, on est en hausse 0,29%. Et puis Milan aussi, bien orienté, quasiment 1% de hausse. Alors, qu'est-ce qui marche à Paris ? Notamment tout le secteur financier. Société Générale, plus 4, 68,24. On a BNP Paribas, plus 2,65 à 88,16 €. Tous les secteurs qui sont véritablement concernés au premier chef par l'IA sont très bien orientés. Le Grand, plus forte hausse du CAC à plus 4,5%, 143,85 euros. On a également STMicro, plus 2,70 à 30,03 euros. Et Schneider Electric, plus 2,65 à 257,50 euros. Qu'est-ce qui baisse? Publicis, moins 2,19, 73,26. Danone, moins 2,13, 71,56 euros. Orange, moins 1,24 à 17,50. Ces deux valeurs-là, c'est vraiment un témoin du risque sur les marchés. Quand elles sont en baisse, c'est que vraiment on reprend de l'appétit pour le risque. À noter Stellantis aussi qui subit quelques prises de profit. On a eu une belle hausse hier et le titre perd 1,3% en ce moment à 5,80 euros. Un coup d'œil sur les gros mouvements sur le SBF 120, c'est Bolloré qui signe la plus forte hausse à plus 12,4% à 4,91 euros et Exal Technologies dont on a parlé là il y a quelques secondes qui profite des contrats pour gagner 6,5% à 144,40 euros. La plus forte baisse elle est pour Pluxi dans les titres de paiement. Le titre perd 4% à 10,35 euros. À noter Ubisoft aussi, moins de 8. 4,05, un petit coup d'œil sur l'échange. L'euro-dollar, 1,1541 sur les cryptos, tiens aussi, pourquoi pas, 74 121 dollars pour le Bitcoin. Et l'Ether, c'est peut-être la crypto du moment, hein, avec des avis positifs. Ether qui est à 2325 dollars à l'instant. Un coup d'œil sur les taux d'intérêt, ça on va en reparler dans quelques minutes avec nos déchiffreurs, mais les taux, ça va être la clé du moment. Très nette accalmie sur les dettes européennes. On est à 2,88 pour le 10 ans allemand, 3,53 pour la dette française. On a touché un plus haut à 3,7%, un petit peu plus tôt cette semaine. Donc là, la prime de risque est en train de se calmer un petit peu. Le pétrole, 103,45 pour le Brent, ça pique, mais pas assez pour faire descendre les indices. Et on va en reparler dans une seconde avec nos déchiffreurs.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Omar Dibault, Fineco, bonjour.
Et bonjour.
Et Alexandre Baradez d'IG, merci d'être là en direct ce matin et en plateau avec nous. C'est vrai qu'on note ça depuis la fin de la semaine dernière. C'était très amusant quand on regardait ça avec Guillaume Sommerer dans BFM Bourse l'après-midi. On voyait des pointes du pétrole au-delà des 100 dollars. D'un coup, le marché décale à la baisse. Normal. Et puis, au fur et à mesure, le pétrole reste ferme et le marché remonte. On avait vraiment l'impression qu'on était avec des marchés qui étaient en train de s'injecter du pétrole à 100 dollars pour s'immuniser. Mmh. Et puis là, on est à 103 dollars et le CAC 40 décolle d'1%. Est-ce qu'on n'assiste pas à un phénomène de vaccin contre le pétrole cher à court terme, hein, bien sûr, sur les marchés?
Alors, moi, j'ai moins ce sentiment. Alors, effectivement, on note que le marché est un peu plus résilient à des prix plus élevés du pétrole, mais quand on regarde toute la séquence début des événements en Iran, c'est quand même le driver, c'est le pétrole, et qui a influencé toutes les classes d'actifs. Les taux, quand en gros le pétrole monte, les taux se redressent. Du coup, les valeurs orientées économie, macroéconomie se tassent. On a la tech un peu plus résiliente, du coup, un peu moins sensible à ces questions géopolitiques. On a le dollar qui s'était renforcé. Donc, tout est très, très lié. Et quand le pétrole rebaissait, eh bien, le risque on revenait un petit peu pendant quelques temps sur les indices et les taux se détendaient. Moi, quand je regarde sur le terrain, tout part du terrain. Est-ce que sur le terrain, on a le sentiment que les choses sont en train de changer drastiquement au point qu'on se dise, bon, ben, ça y est, cette phase-là est déjà en train d'être digérée par le marché. Moi, j'ai encore rien vu pour l'instant. Peut-être qu'on aura aujourd'hui ou demain des éléments peut-être plus concrets. Mais quand vous voyez qu'il y a toujours des projectiles de différentes natures qui partent de l'Iran sur les pays voisins, qui ciblent très clairement les infrastructures pétrole, des terminaux, des ports, ce genre de choses, que le trafic aérien est encore parfois interrompu, puis reprend, et puis, ce qu'il faut dire, le revers américain par rapport à l'aide demandée aux autres pays, ça donne l'illustration d'une situation qui est extrêmement mouvante. Et on voit que les déclarations de l'Iran, encore ce matin, ne vont pas dans le sens, pour l'instant, d'un apaisement ou d'une ouverture à la discussion. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a des canaux de discussion qui sont ouverts en off, peut-être que ça discute déjà un petit peu, mais publiquement, en tout cas, on ne voit aucun signe, à la fois en termes d'action sur le terrain, et à la fois en termes d'éléments de langage, de déclaration. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que la volatilité qui se détend un peu, le pétrole qui se détend, à ce stade, je vois plutôt ça comme des phénomènes un peu court terme, mais je n'ai pas la conviction qu'on soit déjà en train de basculer sur un marché qui aurait fait son bottom et qui repartirait vers de nouveaux plus hauts.
Oui, bon. Omar, c'est votre sentiment aussi, la poussière est peut-être pas forcément retomber définitivement.
Clairement, je partage tout l'avis d'Alexandre. Après, moi, mon ressenti, c'est celui que j'ai toujours montré quand je suis venu il y a deux semaines ici, c'est-à-dire il faut juste faire preuve de patience, avoir beaucoup plus d'éléments et de faits. Maintenant, moi, il y a eu deux vrais game changers, on va dire, depuis le début du conflit. Le premier, c'est l'intervention du G7 en disant qu'ils allaient entre guillemets, relâché beaucoup plus de barils de leurs réserves stratégiques sur le marché. Donc ça, c'est le premier signal positif. Il y a un deuxième signal qui est un peu plus discret, c'est celui de l'intervention du Trésor américain sur le marché du baril, dans le sens où ils l'ont shorté, très clairement.
Ça, c'est fou.
Et ça, c'est incroyable. Mais bon, ça, c'est... les gens oublient que Scott Bessent est un petit peu l'élève de George Soros, donc... Ce n'est pas du tout étonnant.
Ce qui est un peu contre-intuitif, hein, étant donné que Trump n'aime pas forcément la doctrine Soros, mais...
C'est ça. Ouais, c'est tout le sujet. Et puis l'autre, pour le coup, l'autre signal pour moi qui a été très important, c'est le décès de Larry Johnny, qui est vraiment le chef de l'intelligence iranienne. Parce que le signal qui est un petit peu envoyé par tout ça, c'est de dire qu'on n'a pas nécessairement envie de se mettre autour d'une table.
Ouais.
Voilà. C'est un signal qui est très fort, je trouve. C'est-à-dire que l'on a envie d'aller jusqu'au bout, d'essayer un petit peu de couper toutes les têtes, entre guillemets, et d'en finir par la manière forte. Donc, c'est pour moi, je suis un petit peu d'accord vraiment avec ce que dit Alexandre. C'est-à-dire qu'on est plus dans une situation où on n'est pas en train de voir la poussière retomber. On est plus dans une situation où on n'a pas nécessairement envie de sortir du marché parce que l'IA est là. On a beaucoup d'opportunités potentiellement avec le temps.
Et on va en reparler.
Exactement, ouais. Et on va en reparler. Et de l'autre côté, on est conscient que pour l'instant, la seule chose que les marchés sont en train de pricer, c'est une potentielle stagflation et pas nécessairement une récession.
Bon, là, on a quand même des indications. Enfin, ça reprend les patterns un peu qui sont décrites en ce moment. Alexandre, il y a un phénomène qui est assez intéressant finalement. On voit des grosses institutions qui veulent garder le marché du pétrole à peu près sous contrôle, à peu près liquide. Là, on va avoir une semaine où ça va être aux banques centrales de nous dire gentiment et sans paniquer tout le monde, on est là aussi et on va soutenir le marché. Bref, là, on va sortir les perfs également du côté de la Fed, du côté de la BCE sans doute aussi, avec une inquiétude de fond qui est que sur les marchés, on joue à se faire peur avec des possibilités de hausse de taux qui sont pricées du côté de la BCE, du côté des taux européens.
Oui, et c'est probablement pour ça que vous avez en tout début de semaine la Banque des règlements internationaux, donc BIS, qui est un peu la banque des banques centrales.
La banque des banques centrales, voilà.
Et qui a envoyé un message clair invitant les banques centrales à ne pas réagir par rapport à un choc d'approvisionnement, mais qui serait uniquement dû à des raisons géopolitiques. Et c'est bien de le rappeler parce que c'est de l'avis de beaucoup d'observateurs. C'est très différent ce que nous vivons actuellement avec uniquement des prix d'énergie qui sont partis à la hausse, alors qu'à l'époque, post-Covid, vu qu'on fait que Christine Lagarde a fait référence à cette période-là, en indiquant qu'elle n'autoriserait pas qu'un tel événement se reproduise, mais sauf qu'à l'époque, c'était extrêmement différent. Les banques centrales avaient doublé la taille de leur bilan en l'espace de quelques trimestres. La demande était absolument gigantesque. La consommation revanchard, on avait appelé ça, parce que les gens confinés, une fois qu'ils étaient déconfinés, ils voulaient dépenser leur épargne. Et donc, il y avait à la fois une demande forte, des problèmes de supply chain, une énergie qui grimpait depuis quasiment le bottom 2020, donc pendant quasiment deux ans de hausse ininterrompue des prix d'énergie. C'est ça l'inflation et les salaires qui avaient suivi. Là, c'est pas du tout la situation macro actuelle, hormis l'énergie qui est plus chère. Donc, et ils ont bien fait de rappeler ça avant tout ce set de banques centrales qu'on va avoir et qui commence avec la Fed. Pour la Fed, pas faire trop long, il y aura deux sujets qui vont être intéressants. Tout d'abord, voir comment la Fed, dans son ensemble, perçoit le risque inflationniste. Y a-t-il déjà un risque inflationniste qui est perçu? Ils vont nous rappeler que l'inflation sous-jacente n'est pas encore confortable. 3,1, on l'a vu, hein, l'inflation PCE est sous-jacente. Donc, c'est vraiment la mesure principale. C'est trop élevé pour pouvoir dire on va vraiment y aller sur le terrain des baisses de taux dans peu de temps. Mais ça, ça va être intéressant de voir comment ils placent le pétrole là-dedans en termes d'impact. Et l'autre élément qui va être intéressant, c'est ce qu'ils vont hedger un peu le risque inflation en parlant peut-être d'un peu des risques pour la croissance et l'emploi. C'est-à-dire, si on veut pas trop impacter non plus le marché en termes de sentiment, dire on est vigilant à l'inflation ou autre, mais on est aussi symétriquement vigilant à la croissance, à l'emploi. On veut pas que la situation devienne un risque pour la croissance. Et dans ce cas-là, on pourrait peut-être ajouter les taux s'il y a besoin. Et dans ce cas-là, la réunion se passerait plutôt bien. C'est ça qui va être intéressant. Est-ce qu'ils couvrent un peu leur double déclaration ou est-ce qu'ils vont plus sur le côté inflation? Ce qui là serait plus problématique pour le marché.
Et la BCE, enfin, les traders, ils jouent à se faire peur, là, ou à nous pricer deux hausses de taux avant la fin de l'année. Je dois vous dire que j'arrive pas à comprendre. Et puis, on en parlait aussi avec Christopher Dembig de Pictet d'IA. Il comprend pas bien le truc non plus.
Je comprends pas non plus parce que on est sur le troisième mois consécutif d'inflation harmonisée à l'échelle européenne à moins de 3%. 1,7, d'abord 1,9, 1,7 puis 1,9. Donc, on n'est pas du tout dans la situation des États-Unis. On a l'objectif, on est un petit peu en dessous. Donc, oui, il y aura forcément peut-être des éléments un peu mensuels sur le baril, mais brandir dès maintenant le risque de relever les taux alors que ça fait trois mois qu'on est sous l'objectif et qu'on a toujours quelques fragilités à l'échelle européenne, ça ne semble pas être effectivement le message le plus pertinent envoyé.
Mais en fait, la BCE se retrouve dans la situation totalement inverse de la Fed, C'est-à-dire que la Fed, on la presse de baisser ses taux alors qu'il y aurait plutôt des raisons de les remonter. Et là, du coup, les marchés pressent la BCE en termes de dynamique sur les taux d'intérêt en priçant des hausses de taux alors que personne n'en a besoin. Au contraire, voilà, le flou demeure.
Moi, je vais être très franc, je ne comprends absolument pas la communication ni de la BCE ni de la Fed. C'est-à-dire que d'un côté, on a une Fed qui ne parle pas. D'accord. Powell n'a toujours, ne s'est toujours pas exprimé, n'a absolument rien dit, alors que d'habitude.
On verra ce soir, mais
d'habitude, la Fed est une institution qui, normalement, fait beaucoup de forward guidance. Aujourd'hui, on n'en a pas. D'accord. Ouais. Ça a été le cas l'année dernière également, quand on a eu les problématiques entre février et avril. Powell n'a absolument rien dit. Donc, des fois, on se demande si ce n'est pas nécessairement une problématique que l'on a avec Trump. Et puis, de l'autre côté, on a une BCE qui est très interventionniste en termes de communication. Moi, sincèrement, j'ai été un petit peu étonné d'entendre des hausses de taux attendues, parce que quand on regarde vraiment les deux locomotives que sont la France et l'Allemagne, on est sur des deux pays qui n'ont plus assez de croissance. Et des hausses de taux seraient problématiques pour ces deux pays-là.
Bah oui.
Moi, sincèrement, si j'étais à la BCE, je prendrais plutôt l'attentisme et puis surtout d'être un peu plus data dependent, mais je comprends un petit peu le fait qu'ils soient vraiment focus sur leur mission, c'est-à-dire 2% d'inflation. Et je pense que c'est très difficile de se projeter quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur le conflit et surtout sur ce qui peut potentiellement nous attendre sur ce terrain-là.
Oui, alors il y a toute une sphère qui joue son jeu vidéo et qui le joue très bien en ce moment, c'est l'IA. On a eu en début de semaine quand même la réunion d'analystes d'NVIDIA. Donc, on sort les gros chiffres, on sort la grosse artillerie, là aussi, 1000 milliards de dollars de carnet de commandes. On a l'impression que même la troisième guerre mondiale, entre guillemets, n'arrive à entraver les dynamiques de croissance d'NVIDIA. J'allais presque vous dire, est-ce que c'est bien raisonnable ?
Moi, j'ai plutôt l'impression de voir un peu Elon Musk il y a quelques années. C'est le sentiment que j'ai. Donc moi, c'est juste un petit peu une question mathématique. C'est-à-dire qu'on a des montants qui sont effarants, mais de l'autre côté, on a déjà des Max7 qui utilisent plus de 80% de leur cash flow généré pour investir dans les CAPEX. Et on arrive pourtant à des revenus pour Nvidia qui dépassent à peine les 250 milliards de dollars annuels. Donc la vraie question, ça va être de savoir comment est-ce qu'on pourrait atteindre ce type de montant-là. Donc, le vrai sujet, et c'est celui que je n'arrête pas de ressortir depuis plusieurs mois, c'est celui du financement de l'IA. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces Max7 vont devoir s'endetter. La question du coup qui va sortir par rapport à ces endettements-là, c'est comment vont-ils faire pour gérer de tels montants empruntés sur les marchés ? Est-ce qu'ils vont les titriser ? Est-ce qu'ils vont les sortir des bilans ? Et c'est un petit peu ce qu'on voit avec Meta qui récemment a fait une joint venture avec Blue Owl pour gérer un data center qu'ils ne détiennent pas finalement à 100%, ils le détiennent uniquement à 20%. Donc, on sort un petit peu toutes ces dettes-là des bilans. La vraie question qui va se poser par la suite, c'est 1. Comment va se dérouler ce financement-là ? Et 2. À quel niveau d'opacité on va avoir droit ?
En parlant d'opacité, il y a une problématique qui est quand même en train de rentrer dans tous les scopes, et même au niveau européen, même si c'est né aux États-Unis, celui de la dette privée. Est-ce qu'on sent, est-ce qu'il y a des implications, des conséquences chiffrées autour peut-être du cours de certaines institutions financières, du côté des dynamiques de taux d'intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de s'inscrire, qui est feu orange sur la dette privée?
Oui, il y a beaucoup, le fait d'en parler, qu'on en parle un peu partout maintenant, ouais. Surtout quand on voit que, et ça, on peut trouver ça dans des cycles parfois qui sont un peu matures, c'est-à-dire qu'on a vu que justement ces fonds-là, notamment, se sont récemment ouverts au grand public, en cherchant un peu de la liquidité, en faisant appel à l'épargne publique, sachant que la communication n'était pas forcément adaptée. On sait très bien que la tolérance en termes de durée d'un placement pour un particulier est beaucoup moins forte que la tolérance d'un institutionnel qui connaît parfaitement le secteur et qui est prêt à s'engager sur les 10-15 ans des deals de cette nature-là sur la dette privée. Donc, c'est vrai que quand on voit plusieurs particuliers qui sont rentrés sur ces produits-là et aujourd'hui sont ceux qui peuvent leur peur sortir et que ces fonds limitent évidemment les capacités de sortie. Ouais. C'est vrai que j'ai quand même souvenir qu'à chacune quasiment des grosses crises qu'on a traversées, que ce soit la bulle Internet ou les subprimes ou autres, on a souvent vu une phase. Alors je ne dis pas qu'on est au devant de ça, c'est pas mon sentiment, mais il y a toujours une phase où il y a eu quelque part un produit qui était devenu moins liquide à un moment donné, fonds qui ont été gelés temporairement. Et c'est malheureusement souvent des choses qu'on remarque dans une phase un peu de maturité et avant qu'il y ait un peu de volatilité sur le secteur concerné. Donc, peut-être que c'est temporaire, mais l'histoire nous a montré que les problèmes un peu de rachat de position quand on voulait dans certains fonds où la liquidité venait à manquer, ça s'inscrit plutôt dans des phases un peu excessives, un peu spéculatives, et c'est un peu le sentiment qu'on a, c'est que ça va pas, moi mon sentiment c'est que ça va pas disparaître tout de suite, et les banques centrales déjà il y a quelques années disaient on est quand même assez regardante à ce secteur d'aide privée, parce que c'est shadow banking ou autre, c'est des secteurs qui ont très très largement progressé et un petit peu en dehors du scope de régulation habituelle des institutions.
D'autant que c'est marrant, vous parlez de shadow banking, c'est un terme qu'on n'entend plus d'ailleurs. Finalement, c'est ce phénomène de la boîte noire, de la non-visibilité, de la non-liquidité de manière générale, mais c'est peut-être ça qui fait peur et c'est peut-être ça qui provoque la crainte de la peur, finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger fondamental. Là, tous nos analystes nous disent non, c'est très circonscrit, c'est très américain. Il y a un peu de fond en provenance d'Europe qui vient traîner dans cette affaire-là, mais enfin, pas de quoi faire exploser tout le monde. Et malgré tout, et on l'a vu aussi concernant les subprimes ou les investissements dans la tech réalisés par les banques régionales américaines qui ont tout explosé, la Silicon Valley Bank, etc. C'est la crainte de la peur, finalement, qui peut faire exploser la crise.
Oui, pour moi, enfin, la question de la dette privée, je l'ai, parce qu'on m'a beaucoup de fois posé la question, mais moi, mon avis est que c'est un secteur qui est assez isolé, c'est un secteur qui va très lentement. La seule chose finalement qui fait peur, il y a deux éléments. Le premier, c'est son opacité, donc ça, c'est un vrai sujet. Et le deuxième sujet, pour moi, c'est l'effet de contagion, c'est-à-dire on sait très bien qu'il prête à des sociétés qui ne sont pas nécessairement cotées, donc le vrai impact, finalement, ça va être de savoir quel est l'impact sur l'économie ? Est-ce que ces sociétés-là vont peut-être fermer boutique ? Et donc cela peut avoir nécessairement des impacts sur des licenciements, sur du chômage supplémentaire, etc., etc., etc. Et surtout, quand on voit l'exposition que l'on a sur les secteurs, notamment du software, qui sont un petit peu dans l'œil du cyclone avec l'IA. Donc le vrai sujet, ça va être de savoir véritablement les effets de contagion et les effets sur l'économie. Mais de là à dire que l'on a en face de nous un scénario à la 2008, je trouve que c'est un petit peu exagéré.
Oui, sans doute. Alexandre, ce CAC 40 qui arrive quand même à se maintenir à 8000 points malgré les incertitudes, les cours du pétrole, l'indice VIX qui revient à 21 points, c'était le niveau d'avant le début des hostilités vis-à-vis de l'Iran. Ouais, il y a pas quelque chose qui est un petit peu anxiogène là-dedans?
Non, anxiogène. Géographiquement, j'ai distingué deux zones quand même. Ouais. La partie européenne, on a quand même des corrections indicielles qui ont la plupart du temps dépassé 10%, la plupart des gros indices par rapport à leur point haut récent. Certains indices même 12-13%. Donc ça, d'un point de vue opportunité pour un investisseur qui regarde à moyen terme, les trous d'air de plus de 10%, c'est généralement de belles opportunités. Il y a les secteurs, les banques qui étaient un peu tendues, qui ont relâché. C'est quelqu'un qui regarde à 2-3 ans, pas trop de soucis pour aller dans ce genre de trous d'air. La question, c'est est-ce que de 12% ou de 10% ne peut pas passer à 15 ou 20? Et c'est là que je regarde du côté des États-Unis, où là, je trouve, en revanche, on sait pourquoi ça a moins corrigé un peu le côté valeur refuge, valeur américaine, dollar qui monte. Donc on préfère vendre un peu les indices asiatiques ou autres, l'Europe, et on reste, on vend un peu plus légèrement la partie américaine, mais pour autant, cette partie américaine était la plus chère avant les niveaux de correction. Il y a toujours des gros enjeux domestiques, inflation non maîtrisée, les questions commerciales, la Cour suprême qui a retoqué, des interrogations sur le consommateur, on voit des ventes de détail un peu moins bonnes depuis 2 mois. Donc je dirais que ça, selon moi, il y a résilience liée au stress géopolitique, mais la limite avec la complaisance me paraît assez proche, en fait. Et je trouve que 7% de correction sur le SP500 depuis son plus haut, face à tout ce flot d'infos, tant mieux, c'est résilient, mais est-ce que c'est pas aussi un peu complaisant? Et moi, je serais plus à l'aise avec un 10-15, où là, on aurait des niveaux, je dirais, un peu plus confortables en termes de valo, et surtout sur des supports qui seraient un peu plus visibles qu'actuellement.
Alors, être vigilant côté américain, et puis prendre acte de notre résilience en Europe. Alexandre Baradez d'IG, merci d'avoir été avec nous en direct ce matin au Mardi Beau. Fineco, merci également. Et on passe aux arbitrages, tiens, justement.
Tout pour investir. Arbitrage.
Avec Valentin Nico de Bourse Direct, on a déjà eu une pré-analyse technique par Alexandre Baradez, c'est son dada, mais enfin, globalement, on a un CAC 40 qui signe 3 hausses consécutives, qui repasse au-dessus des 8000 points. Est-ce qu'on est sauvé ou est-ce que ce retournement haussier reste un petit peu fragile?
Ouais, alors c'est vrai, pour les conditions de marché, écoutez, il n'y a rien qui s'est trop modifié, comme vous le savez. On est toujours les yeux rivés sur le pétrole et c'est pas encore la détente, c'est le moins qu'on puisse dire. On est toujours à $100 sur le Brent. Nous, on pense qu'il y a peu de chances que les discours sur des banques centrales là soient surprenants. On pense qu'on va rester sur les projections qui étaient qui était fixé et anticipé, donc les yeux toujours sur le Moyen-Orient. Malgré tout, comme le disait d'ailleurs Alexandre, on est plus à l'aise sur l'Europe que sur les États-Unis, parce que on estime que le risque a été peut-être un peu plus pricé par le marché, sans bien sûr avoir aucune certitude, mais on a cette impression-là. Et techniquement, ça c'est en train de se ressentir. Comme vous le savez, on se stabilise, vous l'avez dit, on tente de construire un rebond et on est rassuré par la détente du dollar index. Et deux, la détente sur les taux 10 ans aux US, et également, comme vous l'avez souligné, une petite détente du VIX, même si ça reste très sensible comme paramètre, donc, et des volumes qui sont plus intéressants là sur la phase où on est repassé au-dessus des 8000 à l'achat, donc un regain d'intérêt pour les acheteurs. Donc nous, en tout cas, on présage et on reste plutôt positif sur l'indice, et on se remettrait en question si on repassait sous 7850 sur une ou deux clôtures, ce qui est pas notre scénario principal. Donc on a plutôt des anticipations haussières sur le CAC.
Bon, et sinon, il y a un actif que vous regardez en particulier ce matin qui attire un petit peu votre attention, une action, un truc?
Alors, sur les dossiers qu'on suit, en estimant que l'indice rebondisse, on a Airbus et LVMH qu'on regarde particulièrement, qui sont sur des zones pour nous vachement attractives. Et si on veut être un peu décorrélé de cette éventuelle hausse de l'indice, il y a des dossiers qui ont très bien résisté sur la période et qui ne seraient pas impactés par, on va dire, une prolongation un peu plus longue que prévu du conflit, il nous semble. C'est Carrefour la Française des Jeux qui surperforme sur les dernières séances, parce que bon, un défensif, donc il y a une question de marge pour Carrefour éventuelle avec l'inflation qui pourrait avoir lieu, et bon, FDJ est quand même en dehors de toute corrélation d'un point de vue business sur la situation actuelle. Donc on reste voilà, c'est des dossiers qui sont beaux techniquement et qui pourraient permettre de profiter des deux situations, on va dire.
À suivre, en effet. Merci beaucoup, Valentin Nico, de Bourse Direct, pour ces arbitrages. Le CAC 40, plus 1,09, et on est largement au-delà des 8000 points à nouveau, à 8061 points. Restez à l'écoute de Tout pour Investir. On vous donne des conseils pratiques dans la deuxième demi-heure. Et premier d'entre eux, comment organiser votre donation de votre vivant. Et on sera dans quelques instants avec Thibaut Delahaye de Delahaye Capital. À tout de suite sur BFM Business.
Tout pour investir, la boîte à outils.
On ouvre la boîte à outils, on sort les outils pour vous donner les meilleurs conseils en termes de gestion de vos finances personnelles, de votre patrimoine, de votre capital au quotidien. Et nous sommes avec Thibaut Delahaye de Delahaye Capital. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Et on va parler de quelque chose d'important, qui est important de préparer tôt, sereinement, c'est la donation. La donation de son vivant, ça permet d'anticiper la transmission, d'éviter des problèmes infinis au moment d'un décès. Comment ça fonctionne concrètement? On va reprendre tout de A à Z pour bien voir les choses. On va tout reprendre de zéro. Qu'est-ce qu'on appelle exactement une donation de son vivant?
Alors, une donation de son vivant, c'est un acte par lequel un propriétaire d'un bien donne de façon gratuite, et ça c'est important, ce bien à une tierce personne, cette donation doit se faire de façon irrévocable et doit réellement se dessaisir du bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de donation et de retenir, sinon cette donation n'est pas valable. Alors toute personne peut donner, évidemment, à partir du moment où elle est juridiquement capable. Un enfant mineur n'est pas juridiquement capable, donc il ne peut pas donner. Et on peut donner à qui on veut. Alors de façon assez classique, on donne en général à ses enfants, à son conjoint, mais aussi on peut donner à un tiers.
D'accord.
Il y a un point qui est important, c'est qu'on peut donner à qui on veut ce que l'on veut, en prenant garde de ne pas attaquer la réserve héréditaire des enfants, puisque vous savez, en France, on est obligé de transmettre une partie de son patrimoine à ses enfants. Donc on ne peut pas donner plus que ce qu'on appelle la quotité disponible.
C'est ça qui est important et à bien garder à l'esprit, c'est-à-dire qu'on peut donner à une tierce personne pour différentes raisons, mais il n'est pas question de léser pour autant ses héritiers naturels.
Absolument. Donc,
ça rentre en ligne de compte.
Absolument.
Alors, quelles sont les conditions vraiment indispensables pour qu'une donation soit juridiquement valable? Parce qu'une donation, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Bon, si les enfants ne sont pas contents, si une tierce personne réclame quelque chose, bon, il faut que tout ça soit bien backé juridiquement. Et quels sont les paramètres vraiment précis pour que ce soit totalement irrévocable et clean?
Alors, évidemment, il faut que les deux parties soient consentantes, puisque celui qui va recevoir peut éventuellement ne pas être d'accord. Si vous lui donnez un bien ou un actif sur lequel il y a des dettes ou ce genre de choses, il pourrait dire, mais écoutez, moi, je n'ai pas envie de recevoir cet actif grévé d'obligations ou de dettes. Évidemment, il faut être capable, là, on en a parlé tout à l'heure, de donner. Encore une fois, un enfant mineur ne peut pas donner. Mmh. Il faut réellement avoir cette intention libérale, c'est-à-dire que pendant des années, des personnes donnaient des sommes d'argent à leurs enfants sans leur donner, et ça créait une créance de restitution. Aujourd'hui, c'est clairement encadré par la loi. Mm-hmm. Quand vous donnez une somme d'argent, par exemple, vous la donnez réellement. Et évidemment, en fonction du bien que vous allez donner, il y a certaines règles à respecter, et notamment faire appel à un notaire dans certains cas.
C'est dans quel cas précisément? Parce que je dirais comme ça, sans avoir forcément des connaissances juridiques poussées, je serais tenté de dire forcément, faut passer devant un notaire pour une donation au dernier vivant. Non, pas forcément.
Pas forcément. De toute façon, les donations les plus courantes sont les donations de sommes d'argent. Mmh. Les donations de sommes d'argent, vous pouvez les faire tout simplement en renseignant un document CERFA et de l'enregistrer auprès du Trésor public.
D'accord.
Vous pouvez également donner des parts de sociétés, donc si elles ont une certaine forme, donc par exemple les sociétés anonymes, alors ça peut être classiquement, vous avez un portefeuille boursier, vous souhaitez donner certains titres à vos enfants, évidemment ça permet de purger les plus-values, et vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer auprès d'un notaire, puisque vous pouvez de la même manière remplir ce document CERFA. Vous êtes titulaire de votre propre société, si c'est une société anonyme, vous pouvez également la transmettre via ce document CERFA. En revanche, il y a deux choses qu'on ne peut pas donner via ce CERFA, qu'il faut obligatoirement, les deux choses principales, enregistrer auprès d'un notaire, c'est un, de l'immobilier évidemment, ça c'est le premier point. Et chose qu'ignore un certain nombre de personnes, c'est toutes les parts sociales. Les parts sociales, c'est quoi? C'est les parts de SARL. Donc, si vous avez votre entreprise est sous forme de SARL, vous ne pouvez donner que via un notaire. Oui. Ou les sociétés civiles.
D'accord.
Les sociétés civiles, c'est forcément enregistré auprès d'un notaire.
Bon, très bien. Il y a deux régimes de donation. Il y a la donation dite classique, ordinaire. Et il y a aussi la donation partage, dont on a beaucoup parlé, parce qu'il en était question aussi du côté des réflexions autour de la loi budgétaire 2026. C'est quoi la distinction entre les deux, donation partage et donation ordinaire?
Alors, une donation simple, comme son nom l'indique, c'est vous donner un bien, un actif à une personne, alors en général, encore une fois, un enfant. La donation partage, le principe est assez simple, c'est vous créez des lots de valeurs équivalentes et vous partagez ces lots à tous vos enfants. C'est une chose, on va dire, plus traditionnelle. Alors, à quoi ça sert? Le point principal, c'est que du coup, vous donnez la même chose à chacun de vos enfants, mais surtout, ça permet de figer les valeurs. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, une entreprise et un actif immobilier aujourd'hui qui ont la même valeur, vous pouvez dire, je vais donner la société à un enfant 1, mon actif immobilier à l'enfant 2. Puis pourquoi je donne la société à l'enfant 1? Parce que, par exemple, il y travaille, et donc ça va être son futur outil de travail, vous voulez qu'il le récupère. Et vous figez les valeurs, ce qui permet à, éventuellement, si l'enfant qui a travaillé dans cette entreprise l'a développé pendant 10 ans ou 15 ans, que celui qui a reçu l'immobilier ne vienne pas réclamer. Imaginons que ça s'est bien fonctionné, que l'entreprise ait fait x10, il ne vienne pas réclamer celui qui a eu l'immobilier, une quote-part de l'entreprise, parce qu'il serait devenu plus riche que l'autre. Donc ça, c'est important parce que ça permet d'anticiper et éventuellement de régler des problèmes lors de la succession.
Mais c'est pas que, c'est même, je dirais même, ça a vocation à devenir indispensable, justement pour éviter toute contestation. On sait que, bon, lorsqu'il est question d'héritage ou de succession, il y a toujours des bisbilles et toujours des sentiments de, peut-être pas d'injustice, mais on trouve que les choses sont pas forcément très claires. Là, pour le coup, c'est vraiment le truc le plus clair et le plus clean possible, encore une fois.
Absolument. Alors, ça évite tout problème juridique.
Ouais.
C'est une évidence, puisqu'on a figé, c'est incontestable. En revanche, ça n'empêche pas tout ressentiment, et ça, c'est l'affect, le psychologique. Et même si vous avez tout prévu, vous ne pouvez pas, évidemment, anticiper les réactions de certains de vos héritiers.
On est d'accord. La donation partage, on parle aussi parfois de donation partage transgénérationnelle. Alors, on se dit au jugé, bah oui, forcément, il est question de passer d'une génération à l'autre. Mais non, c'est quelque chose de spécifique.
Oui, alors c'est quelque chose de spécifique et qui est évidemment aujourd'hui de plus en plus important à mettre en place, puisqu'avec le vieillissement de la population, vous avez régulièrement, quand un parent disparaît, il a 80, 90 ans, ses héritiers ont 70 ans. Ouais. L'héritage, au moment où il le reçoit, ça n'a pas forcément changé leur vie. Ouais. La donation partage transgénérationnelle permet en fait aux grands-parents de donner par exemple la nue propriété aux petits-enfants, de se garder l'usufruit pour l'instant de leur vivant. D'accord. Et au moment de leur décès, que l'usufruit se recrée sur la tête des parents, ce qui permet aux parents d'avoir des revenus complémentaires. Et évidemment, puisque vous avez fait une donation sur deux générations, c'est évidemment, fiscalement, c'est très optimum.
Effectivement, très intéressant. Bon, il nous reste quelques secondes. Si vous aviez des conseils à donner concernant cette donation de son vivant, bon, c'est vrai que, et en plus, c'est quelque chose qui peut parler personnellement, mais il ne faut pas hésiter à le faire tôt, pour que les choses soient claires depuis le début.
Vous avez totalement raison. Il n'est jamais trop tôt pour y penser et de les mettre en place. Et évidemment, il faut se faire accompagner, soit par un notaire, soit par un conseiller en gestion de patrimoine.
Ouais, toujours faire confiance aux pros, hein. Ça, évidemment. Merci infiniment.
Merci à vous.
De la Haye Capital. Cette boîte à outils, encore une fois, très concrète, claire, nette, précise. Vous pouvez la retrouver en replay, en podcast. C'est votre bibliothèque patrimoniale pour gérer au mieux vos petites affaires, vos finances personnelles. Et c'est toujours très utile. Merci infiniment, Thibaut Delahaye.
C'est
et
bon
puis,
en fait.
On va se consacrer au marché immobilier dans quelques secondes.
Tout pour investir. Le placement à suivre.
On va parler immobilier. On va parler SCPI. Et oui, c'est vrai que on a eu pendant des années un marché des SCPI qui a été un petit peu en disette. Bon, là, ça repart. Ça repart, et on l'a vu, et notamment avec vous, David Seksik de Remake. Bonjour.
Bonjour Antoine.
On l'a vu hein, lors d'éditions précédentes, ça passe par des projets locaux, ça passe par des projets compréhensibles, enfin quelque chose qui tient moins du placement financier que de quelque chose de tangible et que vraiment on peut toucher du doigt pour en apprécier la valeur. Maintenant, c'est pas si simple ce redémarrage du marché des SCPI et notamment on revient sur la problématique du rendement parce qu'on en attend. On sait que c'est un produit, c'est pas une action en bourse, hein, c'est pas liquide comme ça. Quelles sont les dynamiques là en ce moment concernant ces rendements, à savoir que si le marché était en disette il y a quelques années, c'est peut-être qu'on s'est laissé un peu aller à avoir les yeux comme ça sur des rendements mirifiques qui n'étaient pas forcément au rendez-vous. Quelles sont les recettes du marché finalement pour éviter des excès comme ça et repartir de manière un petit peu plus saine?
Alors, j'ai envie de dire qu'en fait, on est dans tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on est dans l'excès aujourd'hui, mais dans un excès... Alors, une forme d'excès, parce que certaines digues, peut-être, ont sauté. Un peu d'histoire.
Ouais.
Donc, 2002, le SCPI Gate, remontée des taux, ça emporte l'ensemble des fonds qui n'étaient peut-être pas assez diversifiés. Problème de liquidité qu'on traîne toujours aujourd'hui. Hein, on a 90 milliards d'euros de capitalisation dans ces produits. À peu près 3 milliards d'euros, un petit peu moins, entre 1,5 milliard et 3 milliards d'euros de parts en attente de retrait, donc un certain nombre de clients qui sont peut-être un peu prisonniers de produits qui sont structurellement pas liquides et qui peuvent effectivement donner. On avait historiquement des taux de distribution sur ces véhicules entre 4 et 4,5%, qui était très bien à l'époque. Hein. Il faut se rappeler qu'on était quasiment en taux négatif. Donc,
bah, tout à fait,
c'était
oui.
La prime de risque était largement suffisante. Et puis, les difficultés qu'ont rencontré ces produits fait que les épargnants se sont rappelés qu'on était dans des produits cycliques. D'autres acteurs sont arrivés ou d'anciens acteurs ont pu se recycler et proposer des nouveaux produits pour s'exposer aux nouveaux cycles. Mmh. Là, forcément, les rendements étaient beaucoup plus importants. Les taux de distribution des années précédentes, depuis 2023-2024, ont atteint 7-8% pour les meilleurs SCPI. Et c'était normal, puisqu'effectivement, les taux ayant remonté, l'immobilier, entre guillemets, payer plus.
Bien sûr.
Et donc, c'est logique d'avoir ces taux de distribution plus élevés. Mais c'est un petit peu comme, j'ai envie de dire, c'est un petit peu quand il y a eu la conquête de l'Ouest. Hein, au bout d'un moment, c'est la ruée vers l'or. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis dedans. Une création incroyable du nombre de sociétés de gestion. Vous avez aujourd'hui plus de 20 produits, 20 SCPI sur les 200 qui dépassent les 7% de taux de distribution. C'est vraiment incroyable.
Ouais, ouais.
Donc, certains ont vu de la lumière et sont rentrés. On a vu des gens qui pouvaient plus vendre de Pinel qui se sont créés comme étant société de gestion, des gens qui ont fait du marketing qui se sont lancés là-dedans, et donc effectivement aujourd'hui c'est un peu un maquis dans lequel il faut faire attention. Alors attention, c'est pour ça que c'est des produits intermédiaires, hein. On a faut faire appel à des conseillers en gestion intermédiaire, c'est plus complexe.
Oui.
Donc, faut faire un petit peu attention et s'assurer qu'effectivement, on n'est pas victime de ce que j'appelle le mirage du rendement. C'est-à-dire qu'on a jusqu'à présent les sociétés de gestion structurellement les premières années, parce qu'on est sur des fonds en croissance, sur des fonds qui collectent beaucoup par rapport à leur capitalisation, sur des fonds qui bénéficient d'un délai de jouissance. Mmh. Le délai de jouissance, c'est une période de carence pendant laquelle les associés ne peuvent pas toucher le loyer, pour permettre aux gérants d'acheter un actif et ne pas partager finalement les loyers des anciens immeubles avec les nouveaux entrants.
Tout à fait.
Donc c'est pour éviter la dilution. Donc tous ces outils mis bout à bout font que finalement on est en capacité normalement en tant que gérant de pouvoir délivrer des performances ces premières années qui sont assez remarquables. Mais la profession s'est toujours un petit peu empêchée de le faire pour ne pas induire certains clients peut-être mal accompagnés, je dis bien mal accompagnés, parce que c'est pas toujours le cas, heureusement, dans des croyances qui ne seraient pas les bonnes, et de croire qu'on peut faire des performances à deux chiffres. Et puis aujourd'hui, on a certains qui affichent des performances à deux chiffres, 10, 12%. Alors, c'est des performances qui sont pas durables, c'est clair, tout le monde le sait. Il faut le savoir, c'est pas grave non plus, mais il faut juste pointer du doigt. Donc, moi, je dis juste, regardez les documents d'information commerciaux sur les produits. Regardez les performances cibles de ces produits. Regardez les track records des équipes qui vous proposent ces produits. Et puis, posez une question toute simple aux gérants à qui on vous propose d'investir, chez qui on vous propose d'investir. À quel taux moyen vous achetez de l'immobilier?
C'est ça.
Quand on achète de l'immobilier à 7 ou 8%, ce qui est le cas aujourd'hui, on peut pas distribuer du 12.
Bah, non.
La magie n'existe pas.
Sinon, il y a un vrai souci.
Eh bien, voilà. Donc, non, c'est pas un souci. C'est une utilité de la boîte à outils. Mais tout le monde en dispose. C'est juste que, il faut le savoir. Il faut juste, parce que, aujourd'hui, on est face aussi à des générations d'épargnants qui sont plus mobiles, qui sont peut-être parfois plus seuls, et qui décident d'investir sans se renseigner peut-être suffisamment. Donc, il faut se renseigner. Mmh. Il faut comprendre le pourquoi de certaines surperformances, et puis bien s'intéresser au track record des sociétés de gestion avant d'investir. Et puis, surtout profiter de ce cycle.
Il n'y a pas de raison.
Donc,
il faut y aller. S'il y a des affaires à faire, on est d'accord. Maintenant, il faut y aller avec prudence. Mais est-ce que justement, il n'y a pas une prime de risque supplémentaire dans le sens où c'est un peu, j'allais dire, toute proportion gardée de les cryptos, pourquoi on en parle? Parce que ça monte. Les actions, pourquoi on en parle? Parce que ça monte. Et là, les SCPI, que du coup, la reprise du marché qui était plutôt saine jusque-là soit un peu brouillée par ces considérations de rendement qui sont peut-être, allez, on ne va pas dire excessifs, mais un petit peu au-dessus de ce qu'on est en droit d'attendre.
Ouais, ils sont un petit peu au-dessus, c'est vrai, Antoine, de ce qu'on est en droit d'attendre. Il faut juste être suffisamment informé et ne pas croire prendre un peu de recul et avoir la distanciation nécessaire par rapport à certains classements pour s'assurer en fait de ce qu'on appelle la durabilité de la performance, la performance financière. Bon, faut pas se mentir, un fonds immobilier mature, il délivre entre 5 et 6 % une fois qu'il a atterri, une fois qu'il a sa taille cible. Voilà. Tout ce qu'on a au-dessus, tant mieux, c'est du plus au début, quand on est au début de l'aventure, mais c'est pas durable. Donc il faut juste le rappeler, il faut pas céder à ce mirage et il faut être un peu responsable quand on vend des produits financiers, et c'est ce qu'on essaye de faire.
Il nous reste une minute. Sur les supports de SCPI qui sont les plus investis en ce moment, c'est vrai qu'on y revient, on parlait d'immobilier local, de choses vraiment tangibles, de choses vraiment de proximité. Est-ce qu'on reste sur les mêmes tendances en ce moment?
Alors on a quand même. Alors on reste toujours sur de l'immobilier local. Cependant, on constate quand même que depuis maintenant 2 ans, il y a une grande majorité de la collecte qui est investie à l'étranger, qui investit dans les autres pays d'Europe. Hein, bah oui, parce que l'enfer fiscal étant en France, ça peut aider aussi d'investir dans d'autres pays au niveau de la fiscalité. Attention, on ne choisit pas un produit en raison de sa fiscalité. Donc ça, c'est jamais une cerise sur le gâteau. Oui, oui. C'est pas une raison d'investir. L'une des raisons majeures aussi pour lesquelles on investit à l'étranger quand on est société de gestion, c'est parce que, un, les deals vont plus vite. Quand vous achetez un immeuble à Londres, ça dure entre 1 mois et 1 mois et demi. En France, c'est entre 5 et 6 mois. Donc vous avez le temps de voir passer les trains. Ouais. C'est un peu plus compliqué.
Puis les prix ont le temps d'évoluer aussi.
Exactement, les prix ont le temps d'évoluer, donc vous n'êtes pas au plus proche de la valeur. Deuxième point, et c'est assez important, en France, on est sur des dettes à taux fixe qui soutiennent en fait les vendeurs, qui n'ont pas de pistolet sur la tempe pour vendre, alors que dans certains pays étrangers, on est sur des dettes à taux variables, ce qui fait que les vendeurs sont plus enclins à accepter une offre décotée sur leur actif que quelqu'un qui n'a pas de pression pour vendre. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que ça permet de faire de belles affaires, en tout cas, on espère. En tout cas, de belles affaires par rapport au cycle précédent. Un exemple, on a pu acheter, nous, chez Rimec, des immeubles en plein centre de Londres à 7 500 € du mètre carré, des immeubles de bureaux. Mm-hmm. C'était pas arrivé depuis 15 ans, dans ces niveaux-là. Donc, on a quand même des choses à faire sur les pays étrangers, et c'est tant mieux pour les épargnants.
David Seksik de Rimec, merci beaucoup pour ce point complet sur les SCPI. Bon, soyez regardants sur le rendement, les choses sont peut-être pas aussi simples qu'elles ne paraissent. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Et puis restez avec nous dans 30 secondes, on va parler bagnole. Et oui, Young Timers, les belles voitures qui nous faisaient rêver quand on était petit. Une vente chez Arcurial là, début juillet, qui s'annonce vraiment passionnante avec quelques modèles de rêve. À tout de suite.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Gentlemen, start your engines. On est avec Pierre Novikov d'Arcurial Motor Cars. Bonjour.
Bonjour.
Et on va parler donc de ce marché des Young Timers. Alors, on vous en parle régulièrement dans cette émission. C'est le marché des voitures de collection relativement récentes. On va dire que ça commence dans les années 70, hein, globalement, et jusqu'à il y a quelques années. Et il y a une vraie frénésie autour de ce marché. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est des voitures un petit peu plus abordables. Et puis, il y a une dynamique qui est vraiment irrépressible, c'est la prime au poster dans la chambre de quand on était petit.
La prime au poster, c'est une belle expression.
La prime au poster, voilà, on va la garder. Moi, c'est parce qu'on préparait l'émission avec Venezia et Gwendal, comme d'habitude, et la première voiture que j'ai vue, des photos qui nous ont été transmises, ben voilà, c'est une Testarossa blanche, c'est celle de Deux Flics à Miami, et il y en a une qui sera en vente.
Oui, au Mans Classique, exactement.
Voilà, au Mans
tout
Classique.
Début juillet. Et en fait, cette année, le Mans Classique a scindé son programme. Donc, c'est 1975-2015. Et au fond, c'est une édition légende qui retrace un peu aussi l'histoire des voitures plus contemporaines en compétition. Mmh. Et donc, on va faire une vente qui va être axée forcément sur les Young Timers. Mais de façon plus large, en fait, il y a quand même des nouvelles distinctions. Parce qu'en fait, on a toujours un Young Timer dans son cœur. Et aujourd'hui, il y a des jeunes collectionneurs qui ont 30 ans. Ouais. Et donc, eux, ils vont faire un distinguo, ils vont dire les Young Timers, pour nous, ce sont les voitures analogiques, par opposition aux voitures où il y a beaucoup d'électronique, numérique, avec Apple TV, Android TV, je sais pas quoi, des choses que moi, je ne maîtrise pas.
Les voitures analogiques, alors ça, c'est une vraie tendance.
Oui, c'est ça, en fait.
Le marché est en train de se segmenter là-dessus.
En réfléchissant à nos propos, je me suis dit, mais au fond, c'est ça un peu le Young Timer moderne, ou des collectionneurs de 30 ans, c'est la voiture analogique, c'est-à-dire une voiture où on sent les choses, tout simplement, et on est encore un conducteur.
Totalement, Et il y a un truc qui est assez amusant, vous parliez d'analogique. Souvent, les marques et les équipementiers qui fabriquaient les horloges et les instruments à aiguilles, etc., souvent, c'était des très grandes marques. Geiger, Velia, Borletti.
Il y a eu Cartier aussi.
Cartier qui en a fait sur certains modèles d'exception. Alors, je me souviens plutôt des voitures américaines.
Oui, alors il y avait une série limitée sur les Cadillacs, justement, avec une pendulette de Cartier. Ouais. Il y a eu ça aussi chez Maserati. Il y avait des très, très belles montres. Et puis avant, en fait, avant-guerre, on pouvait choisir son faiseur, son horloger. Et donc, il y avait des gégères qui s'adaptaient aux hispanos. Et c'est encore une tradition chez certains collectionneurs.
Tout à fait. Alors, si on se penche sur labels, entre guillemets, parce que là, on ne parle même plus de marque ou de modèle, oui, de labels qui ont le plus de succès dans le marché du youngtimer. On va dire, le cas emblématique, ce serait peut-être la Golf GTI. OK. Mm-hmm. Mais passé ça, il y a tout un tas de on préparait encore l'émission tout à l'heure, j'ai vu une Clio Williams. Ouais. Quand j'étais petit, voilà, c'était alors on était sorti de la R5 Turbo, ouais, on était sorti, ouais, Renault a une riche histoire en Formule 1, et là l'idée c'était de mettre la marque Williams de Formule 1 dont Renault était équipementier sur une Clio du quotidien, quoi.
C'était la Clio Mini, j'ai déjà 14 ans, ouais, avec Aix-en-Provence, et là tourne vers la gauche, je vois des jantes dorées, ces fameuses
les jantes dorées. Ouais.
Et c'était une Clio Williams. J'avais 14 ans, j'en ai une aujourd'hui, évidemment.
Ah, vous en avez une?
Mais bien sûr. Oh, mais comment ne pas avoir une Clio Williams dans la vie? Et je vais vous dire, il y a un truc qui est génial avec la Clio Williams. Renault fait un moteur V10 en Formule 1 qui est un des plus successful avec le V8 des années 70. Ouais. Le V10 Renault est merveilleux. Mm. C'est un des plus beaux bruits qui ait jamais existé. On a fait une vente Renault en décembre où les gens sont venus de tous les pays du monde pour voir ces Williams, ces Benetton. Mm. Donc, ils développent vraiment avec Williams cette voiture. Ouais. C'est pas usurpé.
Non, non, du
châssis
tout,
ouais, extraordinaire, moteur génial. Mm. Et surtout, c'est une voiture, même quand vous êtes un pilote moyen, voire mauvais, mais enthousiaste,
oui,
eh bien, vous avez l'impression d'être un grand pilote. Et ça, c'est, ouais, vraiment l'apanage des trains roulants français. Et j'ajoute que, ben, il n'y a plus de possibilité de faire de Clio Williams grâce au fabuleux malus que nous avons.
Oui.
Renault a arrêté de faire un modèle hyper sportif alors que on était les spécialistes mondiaux de ces voitures. Il y avait Honda avec le VTEC et les Honda Civic. Il y avait Renault, pour moi, et Peugeot étaient complètement au-dessus avec la série des Clio RS, avec les 200-308 GTI. Eh ben, c'est fini. Voilà. C'est fini. Donc, ça veut tout dire sur l'automobile aujourd'hui. Et ça, ouais, veut aussi dire quand même que je pense que les passionnés, et il y en a toujours, même chez les jeunes, vont se tourner vers ces modèles. Ce qui est un peu particulier dans notre domaine, c'est que, en fait, ça s'arrête aux youngtimers et aux voitures analogiques.
C'est ça.
Les voitures. Et donc, en fait, il y a une limite temporelle à la collection et à la passion, je trouve. Parce que, bon, on peut collectionner le premier modèle de Tesla, c'est intéressant. Mais une Clio Williams, c'est tellement vivant, c'est emblématique, c'est bien dessiné. Il n'y a pas de défaut à cette voiture.
C'est ça aussi, quand on a une optique de collectionneur, on le voyait hier avec la peinture dans le domaine du support surface, hein, qui est un mouvement très particulier, c'est que ça a d'autant plus d'intérêt quand c'est limité dans le temps. Et c'est ça qui est intéressant, parce que dans cette période des youngtimers, bon, qui commence à devenir relativement large, on découvre aussi des modèles, bon, voilà, qu'on voyait dans la rue comme ça, et on se remet à découvrir leurs spécificités techniques. Je sais pas, vous parliez dans votre document préparatoire de la Honda S2000. Ah, il y avait un moteur là-dedans. C'était un moteur de course.
Bah, la Honda S2000, c'était le moteur atmosphérique qui avait le rendement le plus élevé pour une voiture de série.
C'est-à-dire, c'était un record à l'époque.
Moteur de compétition voiture, c'est-à-dire 120 chevaux au litre.
Ouais.
Donc, pour un 2 litres, elle avait 240 chevaux. Ouais. Il prenait 9 ou 10 000 tours. 10 000 tours. Et pour les voitures un peu préparées, 11 000. Alors, il y en a quelques-uns qui ont eu des petits problèmes des moteurs Honda. Il faut le dire, sur la Honda S2000, il y a un petit problème de fiabilité.
Sur la première génération,
exact. Oui. Ah, mais monsieur est connaisseur.
Pardon, excusez-nous, on est...
Mais la Honda, ouais, S2000, c'est le youngtimer génial. Parce que là, pour le coup, ça envoie. C'est une propulsion, ce qui est rare pour les voitures de cette époque-là.
C'est léger.
Ça pèse pas grand-chose.
Ouais.
Et c'est surtout une grande marque Honda. Ils ont commencé à faire des voitures en 63. En 20 ans, ils ont fait des choses exceptionnelles. C'est les spécialistes du moteur 4 temps pendant longtemps. Même en moto, ils ont quand même gagné le titre moto 67. Ils gagnent toutes les catégories. Au moins, comme ça, c'est pas compliqué.
Ouais.
Avec une moto 250 cm3, 6 cylindres. C'est le raffinement, c'est l'horlogerie, en fait. Voilà.
C'est vrai qu'on n'en a pas conscience comme ça, Honda, on pense, voilà, Civic. Non, 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 mais c'est des vrais artisans du moteur, hein, de la technologie moteur.
En revanche, c'est déjà des voitures qui sont très suivies par les connaisseurs. Ouais. Et une Honda S2000 avec un faible kilométrage, c'est déjà une voiture qui va valoir 50, 60 000 euros, à mon avis.
Ouais.
Et c'est que le début, puisqu'on a vendu une NSX récemment, une Honda NSX. Ouais.
Elle est dans les images.
Elle est, qui était vert anglais, d'ailleurs, comme la couleur de... Et ouais, on l'a vendue quand même 140 000 euros. Parce que les gens qui connaissent ces voitures-là, ouais, savent que...
C'est sans doute une des voitures au monde qui a la cote la plus... à la fois stable, avec des supports, même d'occasion très kilométrés, on n'en trouve pas à moins de 30 000 euros. Ouais. Et puis qui décolle au fur et à mesure des spécificités, de la couleur, de la série spéciale aussi, il peut y en avoir.
Mais alors là, il faut comparer à l'horlogerie, c'est que ce sont des connaisseurs, des gens qui sont très pointus. Et donc, quand on a l'excellence, on est dans un autre marché. En fait, les gens ne regardent pas les prix, ils regardent l'état des choses. C'est vraiment une démarche de connaisseur. Sur d'autres marques, où il y a beaucoup, les gens regardent beaucoup les prix, ils comparent ça. Sur Honda ou sur certaines Ferrari de course ou Porsche de course, là, on est vraiment face à des gens qui connaissent par cœur, qui connaissent parfois mieux que nous, qui vivent pour ça. Et c'est passionnant, cela dit. Mais c'est vrai que Clio Williams, comme Honda NSX, comme Honda S2000, ce sont des voitures qui, malgré la production actuelle, elles sont peut-être un peu moins performantes, mais elles sont beaucoup, beaucoup plus passionnantes à conduire.
La NSX, hein, qui avait été mise au point avec un pilote McLaren Honda de l'époque, qui s'appelait Ayrton Senna.
Exactement, il y a des vidéos célèbres.
Ah là là, absolument terrible. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais TPI, c'est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Pierre Novikov, puis on vous fera revenir avant cette vente donc, qui aura lieu début juillet. Et puis, je vous laisse avec Marie-Cœur Droit, les experts de l'IMO, et je vous retrouve à 15h30 aux côtés de Guillaume Sommerer pour BFM. Bon, ça tout à l'heure.
Tout pour investir sur BFM Business.